Magnetora, conférence de Manitou, 21 décembre 1977, consacrée aux chapitres 38 et 39 de la Genèse.
J'ai étudié avec vous concernant le deuxième volet de notre étude, c'est-à-dire la définition de la dimension d'identité de Joseph, se trouve tout au début du chapitre 37. Je vous citerai un midrash que vous n'avez pas dans les pages qu'on vous a photocopiées, mais nous allons d'abord suivre le commentaire de Rashi sur le verset qui va me servir de première référence. Il s'agit du verset 2 du chapitre 37 de la Genèse, donc dès le début de la Sidra de Vayeshev. Le début du verset 2, du chapitre 37, et les soldats de Jacob, voici les enlèvements de Jacob, Joseph, le nom de Joseph, et en réalité, l'objet du récit ici n'est pas de nous donner l'énumération de l'engendrement de Joseph à proprement parler, et d'ailleurs on s'attendrait à l'énumération des enfants de Jacob. Commençons par Réhouven, que nous allons voir dans le Midrash, nous allons immédiatement étudier, mais c'est l'histoire de Joseph que le récit entreprend de raconter. Joseph, ben Shvah et Shoshana, Joseph, âgé de 17 ans, Aya, Roé, était Chav, Hasson, était berger en compagnie de ses frères, et c'est là que commence le récit de la querelle entre Joseph et ses frères, dont nous aurons à reprendre un certain nombre de points. Le premier point de l'étude sera d'établir les dimensions d'identité qui ressortent du nom même de Joseph en hébreu. Et nous aurons donc à rappeler un certain nombre des remarques préalables de la confrontation entre la notion de Toldot Yehuda par Yehuda et celle de Toldot par Yosef, comme nous l'avons vu dans les deux soirées précédentes. Or, nous avons dans le Midrash Rabbah, au chapitre 84, un midrash qui nous est signalé dans les éditions de Torah Tmima au numéro 23. Ce ne sont pas des textes que vous avez là, mais je vous donne la référence pour ceux qui veulent s'y référer. J'ai dit Torah Tmima ? Non, en Torah Shlema. Okay. Et un midrash que je vais d'abord vous lire. Voici quel est le problème posé. Lorsque Jacob revient de chez Laban, il s'installe en Eretz Knaan. C'est ce qui est indiqué au premier verset du chapitre 37. Au verset 2, « Elle est Toldot Yaakov, et voici les engendrements de Yaakov. » La question posée par notre Midrash, c'est qu'on s'attend, Réhouven, Shimon, Lévi, l'énumération des enfants de Jacob, tels que les chapitres précédents, nous ont raconté leur naissance dans le pays de Laban, c'est-à-dire dans l'exil propre à Jacob. Et voici que le mot de Toldot employé dans ce verset doit changer de sens. Il ne signifie pas vraiment les engendrements ici, mais l'histoire de Jacob telle qu'elle est reprise et continuée par Joseph. Puisque c'est le récit de l'événement qui nous est indiqué, bien que le terme employé annoncerait au contraire l'énumération des engendrements. Avec deux difficultés, il ne s'agit pas des engendrements de Yosef, puisque c'est beaucoup plus tard, et nous verrons cela demain soir, que Ephraïm et Ménaché vont naître de Joseph en Égypte. Ici, nous nous trouvons au retour de Jacob et de sa famille de l'exil de chez Laban dans le pays de Canaan. Deuxième difficulté, il ne s'agit pas non plus de l'énumération ni exhaustive ni dans l'ordre des enfants de Jacob, puisqu'on ne va parler que de Joseph. Et le Midrash que je viens de vous citer, donc la référence est le chapitre 84 du Midrash Rabbah, pose la question de la manière suivante. Hatoldot halalu, et ces engendrements qui sont indiqués ici, et donc nous devons traduire plutôt histoire que engendrement, et nous allons reprendre cette dialectique de sens. Hatoldot halalu, l'annoncement, l'énoncé, le fait d'annoncer qu'on va parler de l'engendrement après Jacob, lobaou et la bisruto chez Yosef, ne sont cités dans ce texte que par le mérite de Yosef. Dès cette première phrase, nous voyons que dans l'ordonnance du récit, tout se passe comme si le prolongement naturel de Jacob, c'est Yosef. Bien entendu, nous avons encore en mémoire tout ce que nous avons vu hier et avant-hier soir concernant l'identité de Yehuda, et qu'il y a deux polarités, deux dimensions, deux perspectives de prolongement des toladot, des engendrements après Jacob, ce qui était la question que nous avons étudiée en particulier hier soir. Mais voici que nous avons là un texte qui semble, et le Midrash va nous l'indiquer de façon encore plus accusée, indiquer que le prolongement de l'identité de Jacob serait plus naturellement Joseph. Et il y a donc une première précision à apporter. Il s'agit bien de Jacob et non pas Israël. Lorsque l'envergure d'identité de Jacob passe à Israël, alors les 12 qui sont 13 dimensions que nous avons vues hier apparaissent tout entières, et la double polarité, Yosef d'un côté, Yehuda de l'autre. Mais ici, le texte nous montre une sorte de, plus que prolongement, d'analogie très profonde, presque d'identification entre ce que représentera Yosef parmi l'ensemble des enfants de Jacob et Jacob lui-même. Vous aurez vous-même l'occasion de vous référer tant à Rashi, aux autres commentateurs ou aux autres Midrashim, qui montrent qu'il y avait, bien évidemment, ce qu'indique ce récit, c'est une préférence personnelle de Jacob par rapport à Joseph. Mais il y a aussi une dimension objective, comme si le texte veut indiquer que dans la mesure où l'histoire de Jacob doit se perpétuer, où la sélection d'identité n'est pas arrêtée à lui, mais doit se prolonger, le prolongement naturel serait plutôt Joseph que une quelconque autre lignée issue de Jacob dans l'ordre des 12 tribus qui sont 13. Voici donc la première formule qui est assez importante. « Atoldot halalu lobaou elabisruto shel Yosef » Comme si le texte du Midrash veut nous dire ici que les autres enfants de Jacob ne sont apparus que par le mérite de Joseph. Là, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse sur une des données importantes du problème que nous retrouverons dans la question de la querelle entre Joseph et ses frères. Elle est en réalité beaucoup plus profondément j'abandonne le terme de querelle, une rivalité de stratégie messianique entre les descendants de Jacob par Léa et les descendants de Jacob par Rachel. Et la première indication, c'est que, le Midrash va le citer de façon encore très précise, c'est que lorsque Jacob a quitté son propre père, Isaac, pour aller à Padan Aram, chez Laban, à Haran, fonder sa propre famille, et nous savons que c'est dans cet exil-là que les communautés qui seront les tribus d'Israël et formeront Israël comme identité collective, comme peuple et comme nation, c'est dans cet exil-là qu'elles se sont constituées. En fin de compte, a priori, ils n'allaient rencontrer que Rachel. Et par conséquent, l'intention des engendrements n'était que Joseph. C'est par le fait que Jacob a dû assumer non seulement sa propre vocation en tant que lignée des patriarches, mais aussi celle de son frère Ésaü, Esav, qu'il a dû aussi assumer au niveau des engendrements, Léa, qui était destinée à Esav, et Rachel, qui lui était destinée à lui-même. Il y a là une problématique d'identité que nous avons eu l'occasion dans les séminaires précédents d'approfondir. Je le rappelle très brièvement pour ceux qui n'y auraient pas assisté. À partir d'Isaac naissent deux lignées, Ésaü et Jacob. À la racine, les deux fondateurs de ces lignées sont frères jumeaux, et ils ont à résoudre ensemble s'il y avait eu fraternité entre eux, s'il y avait eu accord dans le projet d'identité. Ils ont à assumer ensemble les doubles tâches de la vocation humaine, la tâche spirituelle et la tâche matérielle. On pourrait dire en termes un peu plus précis, la culture matérielle à proprement parler, la civilisation matérielle à proprement parler, et la culture dans son sens spirituel, dans le sens strict. Et finalement, il y a une disqualification de la dimension représentée par Ésaü. Et donc, Jacob se trouve investi d'une tâche qui prendra beaucoup de temps, mais provisoire, d'assumer aussi la vocation d'Ésaü. Et c'est pourquoi, dans la cohérence du récit, lorsqu'il arrive chez Laban pour épouser en principe la femme qui lui est destinée, qu'il reconnaîtra et qu'il aime, dit le texte, c'est-à-dire Rachel, une stratégie de Laban l'obligera à assumer aussi Eléa et Rachel. Est-ce que c'est suffisamment clair du point de vue de ce rappel? Et par conséquent, nous sommes déjà avertis dès le début de ce Midrash que l'ensemble de la descendance de Jacob est seconde d'un certain point de vue par rapport à Joseph comme polarité. Klum Yaakov halach etzel Laban ela bishvil Rachel. En fait, si Jacob est allé chez Laban, continue le texte de façon très précise, il n'y est allé que pour Rachel, qui est la mère de Joseph. Shenema, non, j'oublie encore une phrase, à Toldo Talalou, et tous ces engendrements de Jacob, Hayu Mamtinot ad Shenolad Yosef. Attendez, Mamtinot, attendez. Nous allons définir immédiatement qu'est-ce qu'elles attendaient. Elles étaient en suspens, en attente, ad Shenolad Yosef, jusqu'à ce que Yosef ne soit né. Shenema, ainsi qu'il est dit, Vayi, il arriva, Kacher Yalda Rachel et Yosef, lorsque Rachel eut enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Laban, Jacob dit à Laban, Shelacheni el Mekomi ve el Arti, renvoie-moi, laisse-moi partir à l'endroit qui est le mien et à mon pays. Et vous avez cette référence dans le chapitre 30 de la Genèse, verset 25, dans la paracha de Vayetse. Et voici à quoi fait allusion ce point du Midrash, la destinée historique d'Israël en exil, la fin de cet exil n'est possible que si Yosef est né. Et d'une certaine manière, tous les autres toladot, engendrements de Jacob, qui étaient préalables à la naissance de Yosef, sont en suspens jusqu'à ce que Yosef ne naisse. Je vais ici ouvrir une parenthèse purement gratuite, purement hypothétique, comme si ce Midrash veut nous annoncer que tant que Yosef n'est pas né, Jacob n'a véritablement pas de toladot. Et pour indiquer la place centrale que l'identité de Joseph, dans l'ordre de l'enseignement de ce verset, elle est toldot Yaakov Yosef, selon ce Midrash, la place principale que cette identité de Joseph comporte. Voici quelle analyse purement gratuite et hypothétique je voudrais vous proposer. Si Yosef n'était pas né, toute l'histoire précédente, depuis Abraham à travers Isaac jusqu'à Jacob et tous les enfantements de Jacob avant que Joseph ne naisse auraient été inutiles et se seraient résorbés dans une préhistoire auquel une Torah éventuelle, dans cette hypothèse purement gratuite, aurait fait allusion dans l'engendrement d'un verset, mais par une allusion pure et simple. Je ne sais pas si je suis arrivé à exprimer le caractère purement utopique de cette hypothèse, mais pour éclairer ce que veut dire le Midrash. Je reprends l'expression « à toldot halalou ». Tous ces enfants de Jacob que le verset ne cite pas, alors qu'apparemment il se proposait de les énumérer. « Elle est toldot Yaakov », voici les engendrements de Yaakov et on attend l'énumération de tous les enfants de Jacob déjà nés avant Joseph, Reuben, Shimon, Lévi, etc. Mais c'est entre deux mots, dans le blanc du verset, « Elle est toldot Yaakov Yosef ». Voilà ce qu'indique le Midrash que nous sommes en train de lire, « à toldot halalou ». Cet toldot annoncé par l'expression Ele toldot Yaakov, Hayu mamtinot ad shenolad Yosef, était en attente avant que ne naisse Yosef. D'après le verset dont je viens de vous donner la référence, lorsque Yosef est né de Rachel, alors Jacob dit à Laban, tout ce voyage que j'avais entrepris pour venir prendre femme dans la famille d'Abraham, telle qu'elle se perpétue dans le pays de Laban, pour sa propre histoire et pour sa propre destination, s'achève. Maintenant, l'objectif est réalisé. J'avais quitté Isaac et le pays de Canaan pour rencontrer Rachel et avoir d'elle l'engendrement de la suite de l'identité d'Israël. Maintenant que Yosef est né, toute la perspective historique de l'exil de Jacob chez Laban prend fin. Et donc, laisse-moi partir, laisse-moi revenir chez moi. Vous voyez quel est le lien qu'il y a entre le Midrash et le verset. Et les Toldot Yaakov, Yosef, parce que il n'y a eu d'engendrement de Jacob qu'en vue d'enfanter Yosef. D'où ma question de tout à l'heure. Et les autres, et tous les autres. Tous les autres, c'est parce que Yaakov a dû assumer, prendre sur lui la tâche de Ésaü, qui s'était disqualifié comme tel, et du point de vue de sa propre vocation dans l'histoire, et du point de vue des engendrements. Donc nous abordons là un thème assez difficile. C'est-à-dire, tout se passe comme si il y a, à travers les enfants de Léa qui était destinée à Ésaü, et le point culminant sera, après les différentes étapes, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, nous pourrons peut-être revenir s'il est nécessaire sur ce point, pourquoi c'est pas Réhouven qui est Yehuda, pourquoi c'est pas Shimon, pourquoi c'est pas Lévi, pourquoi c'est Yehuda qui est Yehuda, et une sorte d'intériorisation en Israël de ce qui, d'un certain point de vue, aurait pu être une dimension des engendrements à partir d'Isaac, mais dans la lignée d'Israël fondée par Esav. Tout ceci étant purement théorique et hypothétique. Cette référence est importante par le fait que cela nous permet d'établir une signification de la dimension de l'identité Joseph d'après le nom qui lui est donné à sa naissance. Et c'est uniquement dans cette perspective-là que je voudrais analyser l'exégèse du contexte du verset que je viens de citer. Lorsque, en fin de compte, Rachel peut enfanter, le texte dit que elle, Rachel, Patikret Shemon Yosef, elle nomme son nom Yosef. Elle nomme son nom Yosef, et le sens en hébreu, ça veut dire ajouter, Léosif, ajouter. Yosef, littéralement, qu'il ajoute, Yosef. Ce souhait est exprimé immédiatement à la fin du verset, les mots pour dire Yosef Hachem Li Ben Acher. Que Dieu m'ajoute un fils autre. Ici nous sommes renvoyés à un thème que nous avons certainement étudié d'autre part, que je vais rappeler très brièvement, mais ce qui apparaît surtout, c'est cette notion que l'identité de Joseph représente pour Jacob, pour Israël, la force de continuation. La force d'ajouter une étape supplémentaire. On ne peut pas ne pas remarquer immédiatement que le fait que Yosef soit né est salué, situé, désigné, défini par Rachel comme la possibilité d'un ajoutement. Et je forge ce mot-là pour essayer de dire l'idée qui est véhiculée en hébreu d'un ajout, mais pas simplement le résultat du geste, mais le geste lui-même, Yosef. Cette force qui consiste à aller plus loin encore, à ajouter, à prolonger quelque chose. Si cette force, Yosef, apparaît, alors Israël a une suite. D'une certaine manière, et je me réfère aux analyses que nous avons eues hier soir, l'identité de Yehuda nous mène d'un coup à l'achèvement de la dimension d'éternité qui germe avec l'identité d'Israël. Mais c'est tout ce long temps qui mène à cet achèvement qui sera représenté par la dimension de Yosef. Il faut une force qui permette d'ajouter encore plus Yosef. Et cela est déjà indiqué par le souhait de Rachel, Yosef Hachem Li Ben Acher. D'une certaine manière, la naissance de Yosef est saluée par le souhait de Benjamin. Mais Benjamin, qui n'est pas encore conçu à aucun niveau, et Benjamin qui va apparaître comme étant un fils supplémentaire à Rachel. Donc, comme si Yosef n'est pas nommé par lui-même, mais il est nommé par la force qu'il représente et qu'il permet qui est plus que lui, Ben Acher, encore un fils. Je crois que dans le vocabulaire contemporain, ça désigne bien l'effort de la continuation d'être à travers l'effort historique. Et donc, inévitablement, et de façon très claire, l'étape Yosef nous apparaîtra comme indispensable, comme préalable à l'étape Yehuda. Voici quel est le thème central auquel l'indication du nom de Yosef se relie. En effet, à la naissance, de Caïn et Abel, dont nous avons déjà parlé encore hier soir, le même terme apparaît dans le texte. Lorsque le premier enfant de Chava est né, il est appelé Ben, le fils du premier homme, et le texte dit « Vatosef laledet, elle ajouta d'enfanter, et Achiv et Hevel, son frère Abel. » Et ici, nous avons le rappel du même terme, « Yosef Hachev li ben Acher. » Or, alors qu'au temps de Caïn et de Abel, celui qui est ajouté en plus, celui qui est enfanté en plus, celui qui vient après le fils aîné est en danger, selon l'enseignement que le texte lui-même nous donne, pour les raisons que nous avons vues d'autre part, la prise de conscience de soi chez Caïn est exclusive de l'altérité, de la fraternité. L'autre enfant qui naît est en plus, selon ce que dit le verset, va tosef la ledet, Abel est en danger chez Caïn, tant que Caïn n'a pas acquis la transfiguration de la conscience morale. Et nous avons étudié ce thème d'autre part beaucoup plus en détail. L'objectif des engendrements à travers toute l'histoire, jusqu'à l'identité Israël, c'est de pouvoir reconstruire cette relation de fraternité. Eh bien, lorsque Yosef naît, Rachel, le Midrash dit, elle le sait par l'inspiration du roi HaKodesh, Rachel voit un fils aîné qui est capable de supporter un frère. Alors elle peut souhaiter la naissance de ce frère, il ne sera pas en danger. Nous retrouvons la lecture directe du verset. Lorsque Yosef est né, il va être nommé du souhait de la naissance de Binyamin, en des termes très précis, Yosef Hachem Li Ben Acher, et c'est moi qui ajoute dans cette forme du commentaire, Dieu peut m'ajouter un autre fils, il ne sera pas en danger comme c'était le cas lorsque, après Caïn, était né Abel. Et il y a une relation très étroite et très importante entre la fin du temps d'exil pour Jacob et sa famille et la naissance de Yosef. Dès que Yosef naît, il y a aboutissement du projet des engendrements depuis le temps de l'histoire du premier homme. Enfin, la relation de fraternité va pouvoir être résolue. Et ce sera toute la dimension d'identité, non seulement au niveau moral, mais dans sa totalité anthropologique, de Yosef Hatzadik, qui sera capable d'instaurer la relation de paix, de fraternité, entre lui et ses frères. C'est à ce moment-là que le livre de la Genèse tout entier s'achève, l'identité d'Israël est constituée, et le point central, la charnière centrale, si j'ose dire, c'est l'apparition de Yosef. L'apparition de Yosef déclenche la fin de l'exil. Ceci est le thème général à l'intérieur duquel notre Midrash a donc mis en évidence cette dimension particulière. Hatoldot halalu, ayumantinot at shenolad Yosef. Tous les engendrements de Jacob étaient en attente jusqu'à ce que Joseph soit né. Shenema, ainsi qu'il est dit, c'est notre verset, Vayhi kaasher yalda Rachel et Yosef, il arriva lorsque Rachel eut enfanté Yosef. Vayomer Yaakov et Laban, Shalechem. Alors Jacob dit à Laban, renvoie-moi, le temps de l'exil est achevé. Voici quel est le thème général auquel tous ces enseignements se rattachent. C'est le fait que l'exil commence par la sinat chinam. L'exil commence par la rupture de la relation de fraternité. Vous vous souvenez de tous ces textes, en particulier reliés à la destruction du deuxième temple. Le temple a été détruit à cause de la sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Et effectivement, l'exil de Jacob a commencé à cause d'une relation de haine. Ésaü, le frère né, l'aîné, haït son frère. Alors l'exil de Jacob commence. L'exil d'Israël, à partir de la famille de Jacob, commence à cause de l'inimitié entre Joseph et ses frères. Mais c'était dès l'origine. L'exil de Caïn a commencé lorsque il y a eu meurtre de Abel par Caïn. Le Midrash continue. Mi moridam le Mitzrayim, Yosef. Qui a fait descendre toutes les toldot de Yaakov, tous les enfants de Yaakov en Égypte, Yosef. Mi mechalkelam le Mitzrayim, Yosef. Qui les nourrit
en Égypte, Yosef. Hayam lo Nikra et la Bisrut Yosef. La mer rouge, au moment de la sortie d'Égypte, ne s'est ouverte que par le mérite de Joseph. Et des versets sont cités. Et en reprenant les différents points de ce Midrash en particulier, et chacun de ces points vont s'inscrire dans le fait que l'histoire postérieure, la prolongation, la continuité de l'histoire d'Israël à partir de Jacob, est centrée principalement autour de l'identité de Joseph. Donc, Ele Toldot Yaakov Yosef. Le premier point étant l'histoire de la famille de Jacob chez Laban, avait pour objectif la naissance de Yosef. Les autres enfants de Jacob ne peuvent quitter l'exil que parce que Joseph est né, et si Joseph n'était pas né, il y aurait eu résorption de cette histoire dans l'exil de chez Laban, hypothèse théorique, mais pour l'ordonnance de l'analyse. Et le fait que toute la famille de Jacob va descendre en Égypte, c'est par le fait de Joseph. Le fait que le peuple d'Israël peut vivre dans l'exil, c'est par la force de Joseph. Et le fait que le retour soit possible, c'est aussi par le mérite de Joseph. Comme si, pour dire simplement, décrire la scène au niveau d'une image, comme si la mer Rouge ne pouvait s'ouvrir que parce que Moïse avait enfin retrouvé le sarcophage des ossements de Joseph et que c'est devant les ossements de Joseph revenant en Eretz Canaan que la mer Rouge a pu s'ouvrir. Et voici donc une première dimension d'identité. Je l'interpréterai de la manière suivante, dans le sens strict du mot en hébreu, cette force, Yosef, nous apparaît comme la capacité de perpétuation de Acharit Hayamim, comme nous l'avons vu à la première étude, la capacité d'ajouter encore une dimension de prolongation à travers l'histoire. Ceci est encore élargi dans un deuxième Midrash, qui se trouve toujours dans le chapitre 84 du Midrash Rabba et qui vous est cité dans le Torah Shlema au numéro 25. Et dont je vais isoler, c'est un Midrash assez long, dont je vais isoler quelques phrases. Et voici d'abord le début du Midrash, la manière dont ce second texte pose notre même question. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Rabbi Shmuel Bar Nachman enseigne à propos de l'expression de notre verset. Ce texte aurait dû dire tout à fait autrement. Ce texte aurait dû dire, voici les engendrements de Yaakov, Reuben, Shimon, Lévi, etc. Et là, Matalmud Lomar Yosef. Que signifie que Joseph, centralement, et j'irais jusqu'à dire tout seul, puisque en fait c'est le cas, soit cité par ce verset. Et là, chez Kolma, chez Ira, Lazé, Ira, Lazé. C'est que tout ce qui est arrivé à l'un, Jacob, est aussi arrivé à l'autre, Yosef. Ma Yaakov nolad mahul, af Yosef nolad mahul. Voici quelques exemples. La liste est très longue, d'ailleurs, j'en isolerai quelques-uns seulement. De même que Yaakov est né circoncis, de même Joseph est né circoncis. Ceci se réfère à d'autres textes du Midrash. Maze imo akara, avze imo akara. De même que pour celui-ci, Jacob, sa mère était longtemps stérile, stérile n'est pas le mot d'ailleurs, mais ne pouvait pas enfanter pendant longtemps, de même, c'était Rebecca, de même pour Yosef, il s'agissait de Rachel. Il y a tout un parallèle très long d'éléments de définition de l'identité Joseph et de définition de l'identité Jacob. Vous voyez comment le principe de ce deuxième texte est absolument homogène au premier. C'est-à-dire comme si l'identité de Jacob se retrouve dans son prolongement, dans sa prolongation, dans l'identité de Joseph. Et en particulier, en ce qui concerne notre sujet, c'est un choix d'ailleurs pour l'ensemble du texte apparemment arbitraire, mais je l'ai fait pour le relier à notre sujet. Zeyatza lechutza laaret, vezeyatza lechutza laaret. Celui-ci, Jacob, est sorti en dehors du pays, c'est-à-dire en dehors du pays d'Israël, et celui-ci, Joseph, est sorti aussi en dehors du pays d'Israël. Ze nasaïcha mechutza laaret, celui-ci a épousé une femme en dehors du pays d'Israël, il s'agit de Jacob, Vezenasaisha, Mihutsala. Et il est frappant de voir que dans cette énumération des caractéristiques d'analogie entre Jacob et Yosef, le Midrash nous met en évidence, dans une forme très précise, ce point qui concerne notre sujet. La différence avec l'effort d'engendrement au niveau de Yehuda, c'est que l'effort d'engendrement de Yehuda se passe dans le pays de Canaan. Alors que l'effort d'engendrement, de la prolongation des engendrements dans la dimension de Yosef, nous est dit de façon très claire dans le Midrash, « Bechutz al-Haaretz ». Non seulement la vocation de Joseph, ce qui est déjà indiqué dans la vision de ses rêves, en particulier le deuxième rêve, celui de la lune et du soleil, et des 11 étoiles se prosternant devant lui. Mais ce qui renvoie à d'autres textes. Mais surtout, l'expression « Zena nasaisha michutz al-Haaretz » et « Zena nasaisha michutz al-Haaretz » pourrait dire « c'est aussi le cas de Isaac ». Mais dans le cas de Isaac, il n'y a qu'un des deux éléments. La femme de Isaac vient aussi de l'extérieur. Mais Isaac, lui, n'a jamais quitté elle. Tandis que l'analogie entre Joseph et Jacob est beaucoup plus importante. Je continue. Zeholid banim bechutz al-haaretz ve zeholid banim bechutz al-haaretz. Celui-ci, Jacob, a enfanté ses enfants en dehors du pays. Et celui-ci, Joseph, lui aussi, a enfanté ses enfants en dehors du pays. Il y a donc là, bien évidemment, dans l'intention du Midrash, le fait de désigner une analogie d'identité. Donc, d'une certaine manière, Jacob se retrouve dans l'identité de Joseph, beaucoup plus, semble-t-il, que dans l'identité de ses autres enfants. Ceci nous explique, et nous allons le retrouver en détail chez Rashi, ceci nous explique donc la préférence, à la surface du texte, la préférence de Jacob pour Joseph. Bien entendu, la raison immédiate nous est donnée par la première indication, le premier point de notre Midrash. Joseph est le fils de la femme préférée de Jacob, c'est-à-dire Rachel. Là où Jacob va retrouver sa propre manière d'être plus que chez les autres enfants. Et bien entendu, cela sera reporté d'autant plus sur Benjamin. Voici habituellement comment l'ensemble des textes qu'on peut consulter à ce sujet nous indique cette vision de l'analogie de la prolongation d'identité de Jacob chez Joseph qu'indique ici l'expression de notre texte. Avant cela, une petite parenthèse. Dans le vocabulaire kabbaliste, la place de la modalité d'être de Jacob dans le déploiement des engendrements est indiqué par la lettre Vav. Je dis cela très, très schématiquement pour aider ceux qui d'entre vous sont familiers à ce thème à le rattacher à notre problème ici. Est indiqué par la lettre Vav. Or, la lettre Vav a deux Vav. C'est-à-dire, pour prononcer le Vav, il faut prononcer deux Vav. C'est-à-dire, inévitablement, le Vav s'écrit Vav, Vav. Dans certaines formules, c'est Vav Aleph Vav, mais habituellement Vav Vav. Lorsqu'il y a un déploiement en plénitude, alors c'est Vav Aleph Vav qui a pour valeur numérique 13, sinon c'est Vav 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 avec pour valeur numérique 12. Ça se rattache un peu au problème que nous avons étudié hier. Alors, le premier Vav est attribué à Jacob et le deuxième à Joseph. C'est-à-dire comme si de toutes les façons, la forme même du Vav, ici je ne parle que par allusion, la forme même du Vav, c'est l'effort de prolongation. Comme si c'était un Yud qui a force de se prolonger, de se perpétuer, de s'ajouter à lui-même. Et le Vav fondamental, c'est Yaakov. Mais il se retrouve dans cet écho du Vav, que le Vav fait avec le Vav, que le Vav fait avec lui-même, il se retrouve dans Yosef. Pardon ? La valeur numérique du mot Yosef. Attendez, voir ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, attendez, je vais vous dire tout de suite. C'est 156. Yosef, ça fait 156. Pourquoi 200? Non, ça fait que 156, je suis désolé, mais c'est vraiment. Et. Oui, 156. Bon, très bien. Et, enfin, tout ce que je peux vous indiquer, c'est que c'est la même valeur numérique que le mot tsion, qui fait aussi 156. Bien, revenons donc à notre problème. Et je vais essayer de mettre en évidence un des aspects de cette analogie d'identité fondamentale dans laquelle Yaakov se retrouve dans Joseph. Je vais m'appuyer pour cela à un midrash qui est cité par Rashi, toujours sur notre verset. Ceux d'entre vous qui ont le texte sous les yeux, nous allons lire ensemble ce que dit Rashi depuis le début de son explication du verset 2, et puis au moment où nous arriverons à la phrase qui nous occupe, j'y mettrai l'accent. Donc suivez avec moi sur Rashi à partir du verset 2. Bet. Ele tolot Yaakov, ve ele shel tolot Yaakov, ele yishuvehem ve gilgulehem ad shevaou liklal yishuv. Ici, le texte entreprend de nous raconter Yishuvehem, les différentes stations où ils se sont installés, de Gilgulehem, et les différentes pérégrinations qu'ils ont dû suivre. Gilgul, c'est-à-dire avatar, peut-être, mais pas exactement cela. Mais vous avez compris l'idée, Yishuvehem et Gilgulehem, les différentes péripéties de leur histoire, Ad Shebaou l'Islam Yishuv, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans le principe de l'installation définitive. Voilà donc de quoi il s'agit. Jacob revient de son exil de Chalaban. C'est le premier verset du chapitre 37. Et ici, le texte entreprend de nous raconter toute l'histoire de cette famille, jusqu'à ce qu'en fin de compte, à travers toutes les pérégrinations qu'ils connaîtront, déclenché par la descente de Joseph en Égypte, le reste des événements racontés par les chapitres suivants, et en fin de compte, la sortie d'Égypte sous la direction de Moïse et l'arrivée en Eretz Israël à la fin du cinquième livre de la Torah. C'est-à-dire, ici commence un long récit des tribulations, c'est le mot que je cherchais, des tribulations des engendrements de Jacob jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à leur installation définitive, donc à la fin du Deutéronome. Siva Rishona, et la première raison de tout cela, Yosef ben Sheva Esrechana, c'est le fait que Joseph, âgé de 17 ans, a été l'objet de la haine de ses frères, a été envoyé en Égypte, et qu'en fin de compte, finalement, au temps de Moïse, sorti d'Égypte, Géoula, et le fait de revenir en Eretz Israël pour le Yishuv, c'est-à-dire pour l'installation définitive. C'est à cause de cela, du fait que Joseph, âgé de 17 ans, a été l'objet de la haine de ses frères, qu'ils ont dû descendre en Égypte. Et Rachel dit, Zéou Pshuto Shel Mikra. Ceci est le sens simple de la lecture directe du texte. L'Iyot, d'abord, d'avour Alofna, afin que la lecture soit convenable. Au Midrash Agada, mais le Midrash, et c'est un des Midrashim que Rashi va résumer dans la formule qu'il choisit, Midrash Agada Doresh. Voici comment le Midrash enseigne ce verset. Tala Hakatu Toldot Yaakov. Le texte a fait dépendre l'ensemble des engendrements de Yosef, de Yaakov, de Yosef, à Joseph, Mipene Kamadvarim, à cause de beaucoup de facteurs. Achat, première chose, chez Kol Atzmo chez Yosef, chez Yaakov, vous voyez à quel point ils sont identiques, chez Kol Atzmo chez Yaakov, que l'essence même de Jacob et de son histoire, Lo Avad et Tel Lavan et la de Rachel. Il n'a en réalité jamais travaillé chez Lavan que pour Rachel. Rachel qui est la mère de Yosef, comme nous l'avons vu dans les textes précédents. En fait, et voici comment cela se passe. Cette première année, c'était pour Rachel qu'il avait travaillé. Au bout de cette première année, on lui a donné Léa. Et donc, il a dû encore travailler cette année pour pouvoir avoir Rachel. Donc, les 14 premières années, c'était pour Rachel et pour Rachel seulement que Jacob a travaillé. Les 6 autres années, puisqu'il a encore travaillé cette année pour le troupeau, mais au bout de la sixième année, 20 années en tout et non pas 21, il a dû s'enfuir à cause de la jalousie et de la haine de Laban contre lui. Donc, première donnée, c'est que tout le service que Jacob a servi chez Laban n'était que pour Rachel. Veshaya, Ziv, Ikunin chez Yosef, Domelo. Et l'apparence physique, l'apparence de visage de Joseph ressemblait à celle de Jacob. Vecholma chez Irar le Yaakov, Irar le Yosef. Et tout ce qui est arrivé à Jacob est arrivé aussi à Joseph. Zenistam, Vezenistam. Celui-là a été haï, Jacob, Vezenistam, et celui-là a été haï, Joseph. Ze, Achiv Mevakesh le Orgo, Veze, Echav Mevakshim le Orgo. Celui-là, Jacob, son frère a cherché à le tuer, Judas, Esaü, Veze, Echav Mevakshim le Orgo, et celui-là, Joseph, ses frères, sous la responsabilité de Judas, comme nous avons vu hier, ont cherché à le tuer. Vechen Arbe, Bevereshit Rabba, et il y a toute une série d'analogie de ce type dans Bereshit Rabba. Ve'od Midrash, et voilà où nous allons trouver notre réponse, Ve'od Midrash, et aussi il a été enseigné dans le Midrash, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva, Jacob a recherché s'installer en paix, mais j'ai traduit Shalva par paix. Il faudrait traduire de façon plus précise par Shalva, tranquillité. C'est-à-dire, Jacob, revenu de son exil de chez Laban, Bikesh a cherché à s'installer en tranquillité. C'était le premier verset, Vayeshev, Yaakov, Beret, Megure, Abi. Et nous y avons fait allusion hier. Il a considéré, c'est avant-hier, il a considéré que d'une certaine manière, la prophétie, l'annonce de l'exil donnée à la descendance d'Abraham avait pu être réalisée déjà par lui-même. Je ne sais plus si c'est avec vous que nous avons étudié cela, mais enfin, et voici la raison pour laquelle Jacob peut entreprendre de s'installer et de considérer que tout le temps d'exil, de 400 ans d'exil, nous avons vu ça vendredi soir, tout le temps de l'exil qui avait été annoncé pour la descendance d'Abraham, il avait déjà eu par lui-même le mérite de l'achever et de le réaliser dans son propre temps d'exil. Kafat alav rogzo chez Yosef. L'impétuosité de Joseph l'a bousculé. Il faut ici ouvrir des guillemets. Tzadikim mevakshim lishev beshalva. Les justes recherchent à s'installer en tranquillité. Omer HaKadosh Baruch Hu, dit Dieu à ce moment, lo dayan la tzadikim ma shemetukan lahem la olam haba. Est-ce que cela ne suffit pas aux justes, ce qui est déjà mis au point pour eux, préparé pour eux dans le monde à venir, pour le monde à venir, et là, je me bakshi Michel Bechalva, Baolamadé, qu'il cherche aussi à s'installer en tranquillité dans ce monde-ci. Comme si il y avait une sorte d'imprudence de Jacob d'avoir voulu mettre fin à son propre exil et de s'installer d'une certaine manière, de façon anticipée, dernièrement, entre guillemets, et Joseph, dit ce texte, bouscule cette tranquillité de Jacob. Donc il est bien évident que l'identité de Joseph, comme prolongement de l'identité de Jacob, va dans le sens de cette perspective de définition, c'est-à-dire d'un Jacob tel qu'il était connu chez Laban, pas en tranquillité, dans la dimension de l'exil de Jacob chez Laban. Les textes auxquels je pense, c'est là que nous avons la réponse à notre question, explique de la manière suivante. Une des raisons fondamentales, je dis bien une des raisons fondamentales, je choisis un axe d'analyse, une des raisons fondamentales de l'exil, c'est le fait que dispersé chez les nations, et vous verrez d'ailleurs le paradoxe, Israël recueille tous les hommes ou femmes des nations qui sont candidats à l'identité d'Israël. C'est dans le Gemara de Yoma que nous avons cet enseignement. Israël ne part en exil, mais c'est ce que nous appelons en langage tamilique un lavdafka. Ce n'est pas exclusif comme explication, c'est une des dimensions de l'explication. Israël ne va en exil que parce qu'il y a des guérims qui doivent rejoindre Israël.